à voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Gérard Mordilla. Ce soir, réfractaire et sceptique.
Bonjour Gérard Mordilla.
Bonjour.
Alors, nous arrivons au terme de notre rencontre qui a duré toute la semaine. Et de cette conversation avec vous, nous avons cheminé dans votre enfance, dans votre œuvre cinématographique, littéraire, votre réflexion sur les mots, en particulier hier. Et aujourd'hui, pour cette dernière émission, on va essayer d'aller un peu plus loin. Parce qu'il faut toujours essayer d'aller plus loin. Alors, on va commencer, puisqu'il faut aller plus loin, qu'il faut rouler non seulement les mots, mais aussi les kilomètres. On va commencer par le vélo. Parce que le vélo, ça prend une place importante dans votre vie. La bicyclette.
Non, le vélo.
La petite reine.
Je suis un cycliste, je ne me déplace pas en vélo, je roule en vélo, je fais éventuellement des courses cyclistes, je m'entraîne tous les week-ends, tous les étés, j'ai un vélo de course. D'ailleurs, c'est un vélo que mes amis m'ont offert, et le hasard est extraordinaire, parce que ce vélo est de marque Stork, comme Henri Stork, le grand documentariste belge qui a été un de mes amis. C'est un hasard extraordinaire. Et dans la marque Stork, c'est un vélo qui s'appelle Scénario. Donc j'ai et le documentaire et la fiction sur le vélo. Et derrière moi, comme ange gardien, Henri Stork, qui était un homme merveilleux et un très grand cinéaste.
Oui, c'est formidable. Mais alors vous avez pourtant une idole, je crois, d'après ce que j'ai lu de vous, sur vous, c'est Anquetil.
Ah oui, ça, Anquetil.
C'est votre dieu, chacun les siens, hein.
Mais Anquetil, c'est la perfection sur un vélo. Quand vous voyez encore des images de Jacques Anquetil et que vous êtes vous-même cycliste, vous voyez que à la fois sa position, son aérodynamisme, sans parler de la force qui était la sienne, elle est parfaite. Alors, on s'est mis d'accord avec Paul Fournel, qui a écrit un livre sur Anquetil. Moi, j'en ai écrit une autre partie. Donc, on a décidé que Paul était Anquetil en montagne, parce qu'il est un très bon grimpeur, et que moi, je faisais plutôt Anquetil sur la route, puisque plutôt un routier sprinter. Mais d'accord. C'est vrai que c'est le modèle indépassable, Anquetil, c'est, on peut pas faire mieux que ça. Moi, j'ai eu la chance de passer une soirée avec Jean Stablinski, qui était son capitaine de route, champion du monde de vélo, André Darrigade, qui était dans son équipe, champion du monde aussi, et recordman des victoires d'étape sur le Tour de France, et Henri Anglade, champion de France, grand cycliste, etc. Et évidemment, on a parlé d'Anquetil, et j'aimais beaucoup une chose qu'a dite Jean Stablinski, il a dit « Jacques, on pouvait le suivre partout, sauf à table. » Et il nous a raconté cette chose magnifique. À l'époque, les cyclistes, à l'étape, ils mangeaient pas des nouilles. Ils allaient dans le 3 étoiles Michelin et ils faisaient un vrai repas.
On danse.
Voilà, avec du champagne et tout. Et donc, à la fin, le patron arrivait avec le livre d'or. Monsieur Anquetil, il vient nous signer, il signait ça. Puis le patron disait, par exemple, l'année prochaine, je vous ferai goûter ma poularde au cèpe. Et Anquetil disait, mais pourquoi attendre l'année prochaine? Allez. Et après le dessert, il remangeait de la poularde au cèpe et le lendemain, il gagnait l'étape.
Alors, je ne sais pas si vous faites la même chose quand vous roulez, parce que un peu dur.
Non, c'est impossible.
Dur, ouais. Mais le vélo, c'est aussi un sport populaire. C'est parce que ça, pour vous, c'est lié à... Ça forme un tout.
Le Tour de France, c'est quand même le plus grand événement populaire sportif français. Oui. Et puis, j'aime beaucoup la remarque de Jean-Luc Godard, qui dit que quand même, les étapes du Tour de France, c'est la seule fois à la télévision où on voit des gens travailler. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Et puis, pour moi, le vélo, ça a aussi attrait à la littérature. Parce que quand on roule, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à trouver la trajectoire parfaite pour prendre les virages, par exemple. Puis on cherche aussi à rouler sur le plateau et le pignon qui donneront le plus grand rendement. Bien, quand on écrit, on repasse toujours par la même trace, on recommence sans arrêt la phrase jusqu'au moment où on a atteint cet équilibre que l'on cherche de la même manière sur le vélo. Et puis on cherche aussi à entraîner cette phrase en ayant le meilleur rapport entre le plateau et le pignon. C'est la même chose, c'est le même intellectuellement, c'est la même mécanique, si je puis dire. Et donc c'est aussi pour ça que j'aime le vélo. Et puis, encore une dernière chose, quand on fait du vélo, et surtout quand on s'entraîne, par exemple, comme nous nous entraînons à Vincennes, c'est un circuit qui est un cercle. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on tourne. Eh bien, donc, j'arrive à tourner, même quand je fais pas du cinéma.
D'accord, ça roule.
Ça roule.
D'accord. Bon, alors, et si on cherche aussi, si on reste dans les mots, les jeux sur les mots et sur les lettres, vélo, c'est l'anagramme de love.
Et oui, c'est ça qui est. C'est encore un des attraits supplémentaires
l'amour.
Du vélo. L'amour.
Parlons d'amour un peu, parce que finalement, on vous définit comme un auteur engagé. Vous n'aimez pas d'ailleurs qu'on vous définisse comme un auteur engagé, un auteur social. Vous n'aimez pas ça non plus. On vous définit comme un auteur militant. Vous n'aimez pas ça non plus. Mais en fait, au-delà de tous ces mots, il y a quand même beaucoup d'amour dans vos livres. D'amour de sexe aussi, d'ailleurs. Enfin, tout ça est lié. Comment vous vous définissez vous-même par rapport à ça ? Alors, parlez-moi d'amour.
C'est toujours la chose délicate. Parce que comment aime-t-on ? On ne le sait jamais vraiment. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et j'aime encore beaucoup. Et j'ai une attirance réelle et profonde pour les femmes.
Vous permettez que je vous lise une petite phrase de vous ?
Lisez.
C'est vrai que je me suis souvent senti merdeux devant les filles, devant leur générosité, leur largesse, l'éclat de leurs yeux, où le ciel se reflète, alors que dans les miens n'exprime que la mélancolie d'être ce que je suis. C'est une espèce
oui.
de timidité, alors que pourtant dans vos livres, vous êtes hardi avec les filles.
Oui, mais bien sûr que je peux être hardi, et je ne suis pas spécialement timide avec les femmes, mais j'ai aussi une très grande admiration pour les femmes, en tant que femme, tout simplement, parce que c'est vrai que la condition féminine est, à mes yeux, la condition opprimée par excellence. Alors, en France, cette oppression est limitée, mais elle existe profondément sur la question salariale, sur la question des responsabilités, mais aussi sur la reconnaissance des talents féminins. Et si on regarde le monde, alors là, l'oppression est monstrueuse.
Oui, mais, attendez, voilà. Vous rendez justice aux femmes, vous avez d'ailleurs écrit un livre l'année dernière sur ce sujet, hein, sur le sujet des femmes, c'est votre dernier livre d'ailleurs, je crois, d'ailleurs dans lequel vous dites que la laideur n'existe pas. L'amour au corps à corps rend justice à toutes. Mais moi, je voudrais parler d'amour, parce que ça prend une place quand même très importante dans vos livres. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de sensualité aussi dans toutes ces batailles sociales et terribles auxquelles ce livre, dans lesquelles sont plongés vos héros et vos héroïnes. Et l'amour est là, toujours.
Enfin, j'enfonce une porte ouverte en disant que c'est aussi un des moteurs très importants, même à l'intérieur des luttes. Et quiconque a mené, par exemple, une grève avec occupation, sait que dans ces moments extrêmes de tension, les sentiments sont exacerbés, qu'il y a une sensibilité à fleur de peau des uns et des autres, qui fait qu'il peut y avoir l'éclosion de passion qui n'existe au fond que à l'intérieur de la lutte et à cause de ce qui se passe. Alors, c'est vrai que c'est une chose qui, moi, m'a toujours, d'abord dans ma propre vie, suscité, excité, rendu sensible à ce qui se passait. Et puis surtout, je crois n'avoir jamais senti de barrière qui me séparerait ou qui m'éloignerait de celle que j'aimais. Par exemple, je suis tout à fait... pour moi, la jalousie n'existe pas. Je me suis jamais senti propriétaire de quoi que ce soit, et surtout pas, par exemple, du corps d'une femme avec qui je vivrais ou avec qui j'aurais une passion, une histoire d'amour. Donc, je crois que c'est ça. Ce qui me plaît aussi dans le rapport amoureux, c'est que c'est pour moi le vrai rapport d'égalité. Mmh. Quand on fait l'amour avec une femme, on est réellement l'un en face de l'autre, à part égale. Et ça, c'est un sentiment extraordinaire. Et c'est vrai que dans mes livres, j'ai souvent décrit ça, que dans des moments terribles de tension, de bataille et tout, un couple se retrouvait, sachant que c'était une façon de protester contre toutes les violences qu'ils subissaient, en étant l'un dans l'autre, en étant l'un dans les bras de l'autre, et protestant par cet amour qui dépassait justement tous les conflits et tous les combats qui pouvaient se mener.
Vous allez encore un petit peu plus loin, parce que, je vous cite encore, pardon, « Faire l'amour est un art, il ne suffit pas de s'emboîter façon ébénisterie, il faut que ce soit beau. » Donc il y a une esthétique aussi.
Il y a forcément une esthétique, et je crois que j'ai eu beaucoup d'institutrices immorales, comme disait Sade. J'ai eu la chance d'avoir des aventures amoureuses, par exemple quand j'avais 15-16 ans, avec des femmes beaucoup plus âgées que moi, qui finalement m'ont ouvert les yeux, et pas seulement les yeux, pour m'expliquer et pour me conduire délicatement vers le plaisir. Le leur et le mien aussi, pour montrer que cette chose n'était pas simplement l'accouplement, mais qu'il y avait tout un art, une délicatesse, une approche, une imagination, une fantaisie à déployer quand on faisait l'amour et qu'il fallait l'apprendre. Eh bien, pour moi, c'est passé par là, quoi. C'est-à-dire par des institutrices, au fond, il n'y a pas d'autre mot.
Dans vos livres, en tout cas, c'est toujours extraordinairement mêlé, quoi. Il n'y a pas de livre de combat, de rencontre, sans scène de sexe très crue, sans passion aussi, sans, avec tout ce que ça entraîne d'ailleurs d'excès dans tous les sens. Vous en parlez très bien sur le plan romanesque. En poésie aussi?
Oui, aussi, bien sûr, oui. Oui, j'ai écrit beaucoup de choses sur ce terrain-là. Vous voulez que je vous en lise?
Oui. C'est dans quel texte?
C'est un recueil qui s'appelle « Le linceul du vieux monde ».
Ah oui.
Et il y a dans ce recueil un autre recueil qui s'appelle « Retour à la bien-aimée ». Je vais prendre la décoiffée. « De toi, je sais que je vivrai de tes erreurs, de tes errements, du mal qui sonne à ton clocher. De toi, je sais que je vivrai de ta nudité criée sur les toits, du rire brûlant de tes ébats. De toi, je sais que je vivrai d'un Dieu chaque jour rené, scandale sans cesse réinventé. De toi, je sais que je vivrai d'un printemps que tes yeux citent, d'un printemps que tu fleuris pour moi, ma décoiffée. »
Merci. On va en rester là sur l'amour, mais on a envie de continuer. On va parler d'amitié maintenant.
Parlons d'amitié.
Parce que l'amitié, ça prend une place aussi très importante dans votre vie, dans vos livres. L'amitié, la solidarité, l'amitié vraie, c'est-à-dire, là aussi vous avez des mots assez justes, enfin importants. Avoir des amis est un art délicat et sévère dont les règles sont plus fortes que les liens du sang. Une seule question compte, celle-là, celui-ci sera-t-il prêt le jour où on aura besoin de lui, ou manquera-t-il à ses amis? Manquer, il n'y a pas de plus grand crime. C'est dans la rue des Rigoles.
C'est vrai que, pour moi, l'horreur des horreurs, ce serait de manquer à mes amis de la même manière qu'ils me manquent. Je crois que c'est vraiment... J'ai presque envie de dire, c'est presque une sorte d'attitude mafieuse, au fond, de se dire que celui qui demande doit recevoir. Je vais donner des exemples plus précis. Lorsque j'ai tourné « Mélancolie ouvrière », le dernier film que j'ai tourné, la chaîne s'était engagée à ce qu'il y ait François Cluzet. Mais bon, les délais étant tels que quand la chose a pu se faire, François Cluzet n'était plus libre. Et ça mettait d'une certaine manière en péril le projet. J'ai appelé François, je lui ai dit « Écoute, il faut que tu sois là ». Il a été là, il est venu tourner une journée pour être dans le film. Il ne m'a jamais manqué. Et je pourrais dire ça de François Morel, de beaucoup d'autres.
Pater, votre ami Pater.
Bah, Jacques Pater, bien entendu. Mais Pater, c'est même encore autre chose, parce que nous sommes amis depuis si longtemps. Nous étions ensemble à l'école avec François Ventroux, qui est le troisième larron. Il est impensable qu'il me manque ou que je lui manque. Mais j'en dirais autant de Jean-Étienne Coencea, qui a publié tous mes livres. Même ceux qu'il n'a pas publiés, il en a été le premier lecteur. Et c'est ma règle de vie. Je veux dire, on ne peut pas vivre autrement sans cela. Et je ne peux pas concevoir d'ailleurs que ça se passe. Et ceux avec qui m'ont manqué une fois, je ne les ai plus jamais revus, je leur ai plus jamais parlé. C'est impossible pour moi. C'est rompre quelque chose de fondamental, d'absolu. Il n'y a pas d'autre règle de vie que celle-là.
Jean-Étienne Coencea, je le précise, qui était président des éditions Kelman-Lévy. L'amitié est forte, solide, mais si on ne la respecte pas, c'est terminé.
Oui, c'est terminé. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas concevoir ma vie avec des gens qui simplement diraient « faut que je réfléchisse, j'hésite, ah oui, peut-être ou pas ». Non, c'est pas vrai. Lorsque on s'adresse à un ami, que ce soit pour travailler, que ce soit pour emprunter de l'argent, que ce soit pour donner un coup de main dans un déménagement ou des travaux ou n'importe quoi de la vie quotidienne, eh bien, il faut toujours être là. Et si on n'est pas là, eh bien, on rate absolument l'essentiel de la vie. Et c'est vrai aussi sur le plan politique.
Oui. Sur le plan politique, parlons-en un peu aussi, parce que vous avez pris des positions très, très fortes. Hein. Vous vous en prenez régulièrement, d'ailleurs. J'ose dire engagé. Enfin, on sait que
vous
êtes proche
sûr.
Du Parti communiste, que vous êtes un grand lecteur de l'humanité, que vous êtes toujours dans les signataires des manifestes ou dans les manifestations. Vous en êtes où par rapport à tout ça, d'ailleurs?
Je dirais que, philosophiquement, je suis marxiste. D'ailleurs, j'ai préfacé une réédition des chapitres sur le travail et le salaire de Marx. Politiquement, je suis communiste, bien que je ne suis pas au Parti communiste, j'ai jamais été adhérent au Parti communiste, ou en tout cas, je suis communiste dans le sens de Thomas Munzer. Omnia sunt communia, toutes choses sont communes. Et puis, au fond de moi, je demeure fidèle à l'imprimerie, en étant en réalité, d'un terme qui n'a plus de sens aujourd'hui, mais anarcho-syndicaliste. C'est-à-dire que je suis... je ne ferai pas un bon militant dans la mesure où la discipline de parti est une chose qui m'est très étrangère. Et je veux pouvoir garder une liberté d'intervention, de pensée, etc., sans me lier à quoi que ce soit. Donc oui, anarcho-syndicaliste, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de chef, de petit chef, ou de qui que ce soit, ou de directeur de conscience, ou de commissaire politique.
Oui, mais attendez, je prends une de vos phrases encore, je vous ai lu attentivement. « Papa était communiste, mon frère socialiste, ma mère anarchiste. Il me semblait normal que je sois un peu des trois. À 9 ans, j'étais stalinien, petit père des peuples. »
C'était le mien, bien sûr. Enfin, je fais partie de cette histoire.
Pro-chilien, anticapitaliste, et je termine, aujourd'hui, je suis sceptique. Ça suffit. C'est vrai,
oui.
Ça ?
Oui, je suis sceptique, c'est-à-dire que je ne risque plus de me laisser abuser par quelque idéologie que ce soit. Je suis suffisamment attentif pour, au fond, développer mes propres analyses et agir en conséquence. Mais c'est vrai que... la révolution cubaine est quelque chose qui m'a porté. Je trouve que ce qu'ont fait Castro, Che Guevara et les autres, c'était exceptionnel. Staline, non. Staline, c'est vraiment lointain, Staline. Je ne pense pas avoir eu de relation très particulière avec ce moment-là. Bien sûr, le Chili, je crois que nous en avons parlé, a été la grande expérience politique, enfin le grand rêve politique, le grand espoir politique pour moi. Mais encore une fois, je pense que l'engagement, en tout cas tel que je le conçois, est un engagement d'abord dans l'écriture, ensuite dans le cinéma. avec les choses que je sais faire, que je pratique, etc. Alors, avec d'autres cinéastes à l'initiative de Pascal Ferrand, nous avions beaucoup défendu, et je défends toujours, les travailleurs sans papier. Voilà, c'est une façon d'intervenir au regard de ce que l'on peut faire. C'est ça l'engagement. Mais c'est pour ça que lorsqu'on dit vous êtes un cinéaste ou un écrivain engagé, sincèrement, je dis, mais engagé à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Engagé, on est engagé dans l'armée. Engagez-vous. Moi, je suis pas engagé dans ce sens-là. Mais aussi, je suis engagé. Pourquoi? Ben parce que je me mêle de choses dont je ne devrais pas me mêler. Je me mêle d'économie, je me mêle de politique, je me mêle de questions sociales. Alors, on dit un écrivain ne devrait pas se mêler de ça ou un cinéaste ne devrait pas se mêler de ça. Ben moi, je pense que oui, parce que rien de ce qui se passe devant mes yeux ne me laisse indifférent. Juste une chose. Il y a un père dominicain de l'école biblique qui m'a un jour raconté un petit apologue juif. Et ce petit apologue, pour moi, décrit à la perfection comment je conçois à la fois mon travail d'écrivain, mon travail de cinéaste et mon engagement. L'apologue est le suivant. C'est un juif très bien de sa personne, très élégant, très riche, plein d'humour, qui tous les jours se regarde dans un grand miroir. Et là, il constate avec plaisir combien il est élégant, combien il est riche, combien il est plein d'humour et sans aucun problème. Puis passe un rabbin qui enlève le teint du miroir. Et soudain, ce juif très riche, si bien de sa personne, si nanti, à travers la vitre, découvre la réalité du monde et ses horreurs. Eh bien, ce que je fais moi, c'est ce que fait le rabbin. En écrivant, en faisant des films, j'enlève le teint du miroir parce que nous sommes dans une société qui, quotidiennement, nous adresse des leurres et des leurres en forme de miroir. Vous savez, c'est la fameuse formule de Margaret Thatcher. La société n'existe pas, il n'y a que des hommes et des femmes et leurs familles. Eh bien, moi, ça, je veux briser ça, faire voler ça en éclats et dire aux uns et aux autres, regardez ce que vous avez sous les yeux.
Et aujourd'hui, on arrive au terme de ces émissions, Gérard Mandilla. Espoir ou désespoir? Parce que quand on vous lit, quand on vous écoute, on a à la fois un sentiment d'une grande combativité, d'une grande profusion, de tout ce que vous venez de dire, d'un combat permanent. Et aussi d'un fond de, j'oserais presque dire de désespoir, ou en tout cas d'une lucidité un peu amère, quoi, sur le monde. Quel est votre sentiment par rapport à ça aujourd'hui, après tout ce que vous avez écrit, vu, fait et agi, espoir ou désespoir?
J'ai entendu une syndicaliste dire quelque chose que je reprends à mon compte. Elle disait: je ne suis pas assez riche pour être désespéré. Eh bien, moi, je ne suis pas assez riche pour être désespéré. Et d'ailleurs, je ne pense pas en termes d'espoir ou de désespoir. Je pense simplement que nous sommes dans un combat, que ce combat contre ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui est la forme à la fois contemporaine et tragique de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et qu'à l'intérieur de ça, le pire de tout serait de renoncer. Et donc, aussi douloureux cela puisse-t-il être, eh bien, je ne renonce pas. Et s'il y a quelque chose, c'est peut-être de la mélancolie, parce qu'il y a, bien sûr, une mélancolie ouvrière. De ne pas avoir ouvrière, mais aussi poétique, intellectuelle, artistique, et que cette mélancolie, à la fois, c'est une sorte de cap que l'on porte sur les épaules et qui peut peser, mais qui est aussi celle qui, finalement, est le lieu où l'on retrouve, au fond de la mélancolie, le courage du lendemain.
Vous avez écrit, Gérard Mandilla, c'est la grande différence. Nos parents se battaient pour transformer le monde pour des causes, pour des idées. Nous nous battons pour survivre.
Le monde dans lequel nous sommes est quand même un monde cerné de noirceur, dans lequel il faut arriver, il n'y a pas d'autre mot, à survivre, à se sortir de cette noirceur, à se sortir de ce marais boueux qui sans cesse nous enserre et risque de nous paralyser. Alors, ce combat pour la survie être un combat qui à la fois est individuel et collectif, parce que bien sûr, quand on est dans des sables mouvants, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut quelqu'un pour tendre la perche ou lancer la corde qui permettra de s'en tirer. Et je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a là aujourd'hui ce poids justement de la société telle qu'elle est, fait que les questions de survie prime sur toute autre question, c'est-à-dire que on en est revenu grosso modo à des, je dirais, une situation que l'on pourrait comparer à celle des presque de la fin du Moyen Âge, où on en est dans une économie de survie. Il y a quand même en France les statistiques de l'INSEE, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 840 euros par mois. Et dans ces 9 millions, il y en a 2 millions et demi qui vivent avec grosso modo 420 euros par mois, d'ailleurs essentiellement des femmes. Bien, ce poids-là, c'est un poids qui pèse sur toutes nos épaules. Et donc, c'est sûr qu'il faut transformer le monde, mais là, c'est même plus une question de transformer. Il faut le renverser, il faut réinventer, refonder la République sur d'autres bases, et il n'y a pas d'autre issue, à mes yeux, que ce qui s'appellera, une fois que nous y arriverons, une révolution.
Finalement, vous reprenez à votre compte cette phrase que vous aimez tant, d'Artaud, disant à Prével, « Vous n'êtes pas assez révolté, monsieur Prével. »
Je trouve que on devrait inscrire...
Vous n'êtes pas assez révolté, monsieur Mordilla.
Non, je ne suis pas assez révolté. Je pense que nous ne le sommes pas assez, que nous ne le serons jamais assez. Et que la révolte, eh bien, c'est simplement notre vie, quoi. Parce que la vie, telle qu'elle est aujourd'hui dans le système capitaliste, est fondamentalement injuste. Et contre ces injustices, il ne faut surtout pas rester indifférent.
Merci, Gérard Mordilla. Merci de cette semaine passée avec vous, qui nous a permis de vous mieux connaître, aussi bien votre personnalité que votre œuvre. Merci.
Merci de m'avoir si bien lu.
À voix nue. Réalisation Angélique Thibault, prise de son Thomas Robin, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.